Théophile Gautier, la tauromachie. On a fait beaucoup de descriptions de courses de taureaux, plus ou moins exactes à des points de vue différents. Presque toutes commencent par des considérations élégiaques sur la férocité de ces jeux sanglants. Notre manière de voir n'est pas la même, et nous partageons là-dessus les idées espagnoles. Nous trouvons que ce spectacle est noble, héroïque et digne d'un peuple vaillant. Il démontre la supériorité du courage sur la force brutale et de l'esprit sur la matière. Cette lutte où le combattant le plus faible est presque toujours vainqueur, et cela par le sang-froid, par l'appréciation juste du danger, inspire à l'âme des spectateurs un sentiment de fierté, bien différent du trouble où les laissent les émotions de théâtre. C'est une impression mâle, énergique, robuste et préférable aux mélancolies romanesques, aux inspirations sans but ou vers des régions inaccessibles que font naître dans l'esprit du peuple les représentations scéniques en lui découvrant un monde où il ne doit jamais entrer. Quand Montès vient d'abattre un taureau par une de ces estocades étincelantes, rapides comme la foudre et la pensée, et qu'il est applaudi par les milliers de mains brunes et de mains blanches, il n'est personne qui ne désira être à sa place. C'est un héros dans la force du terme, et quoi qu'on puisse dire les poltrons, jouer sa vie sur un coup de dé est une belle chose, que ce soit pour conquérir un trône ou un applaudissement. Les toreros, cependant, ne courent pas autant de risques que l'on pourrait le croire. Ils sont exercés de longues mains, et les accidents sont réellement assez rares. C'est tout au plus si année moyenne, l'on compte pour toutes les Espagnes un ou deux cas de mort et une douzaine de blessures ayant quelque gravité. C'est trop, sans doute, mais il faut penser que les courses ont lieu pendant 6 mois et presque toutes les semaines dans beaucoup de localités. Si l'on marquait ce qu'il y a en France, d'écuyers, d'acrobates et de faiseurs de tours qui se rompent le cou, mais on arriverait à un chiffre bien plus élevé. Ferdinand Wu et Rey Neto, grands amateurs de courses, avait fondé à Séville un conservatoire de tauromachie où les élèves choisis étaient dressés, aux frais du gouvernement, à tuer les taureaux d'après les règles de l'art et avec les finesses les plus exquises. On commence d'abord par exercer les élèves sur un taureau de carton auquel ils détachent des estocades à peu près comme l'on tire le fleur et au mur. Quand ils ont acquis assez de précision et qu'ils touchent fréquemment les bonnes places, derrière les cornes, à la racine du cou, entre les deux épaules, on les met face à face dans l'arène avec de jeunes taureaux de 2 ou 3 ans qu'on nomme novillos. L'extrémité de leur corne est garnie de lanières de cuir entrelacées de manière à former une boule. Et ils s'appellent, à cause de cela, embolados. De cette façon, ils ne peuvent faire de mal, et le seul danger que court le jeune torero, c'est d'être renversé et foulé aux pieds. Lorsque les élèves sont tout à fait sûrs de leur coup, ils s'attaquent à des taureaux sérieux. Les professeurs sont à côté d'eux pour les soutenir en cas de péril. Après 3 ou 4 années d'études, les apprentis toreros sont en état de paraître dans la place. Cependant, bien des maîtres célèbres n'ont pas suivi cette route. Ils ont d'abord été banderillos, capedores, avant de devenir espadas. Le grand Montès, digne descendant des Romero, des Marticho, des Pepe Milo, a écrit un traité spécial où il analyse minutieusement les qualités que doivent avoir les toreros. les diverses suertes ou corridas, la manière d'agiter la cape, d'attraper le taureau, de l'appeler, de se servir de la muleta, et toutes les ressources du métier. Plusieurs chapitres sont consacrés à la connaissance et à l'appréciation des taureaux, et ce ne sont pas les moins curieux de l'ouvrage. En effet, de la justesse du coup d'œil du torero dépendent sa sûreté et sa vie. Les taureaux ont des caractères différents et ne se conduisent pas tous sur la place de la même manière. Un torero habile, dès les premiers pas que fait une bête dans l'arène, comprend si elle est lourde, aplomada ou légère. Des denuchas pietras, franche ou sournoise, si elle a la vue basse ou longue, chose d'une extrême importance. Ses défauts et ses qualités se distinguent à des signes certains ou presque certains pour des yeux exercés comme ceux de Montès et de maîtres célèbres. Une chose importante, c'est que les taureaux n'aient jamais paru sur la place. Ceux qui ont déjà figuré dans quelques courses en qualité de novillos sont beaucoup plus dangereux que les autres. Ils manquent de franchise, se défient, se tiennent sur leur garde et mettent à profit leur expérience. C'est par un taureau de cette nature que fut tué le fameux Pepelillo. Un bon taureau de course doit être âgé de 4 ou 5 ans et avoir été élevé dans un pâturage gardenia éloigné de toute habitation humaine, de façon à conserver toute sa sauvagerie. Il doit avoir les jambes sèches, l'épaule large, le flanc développé, les cornes longues, évasées en croissant. Les plus estimés viennent d'Utrera et des montagnes de Paragon. On les amène soit au moyen d'une vache qu'ils suivent, soit en les mêlant à de grands bœufs qui ont des sonnettes au cou. Des bergers à cheval armés de lances les conduisent au lieu de leur destination, en évitant les endroits fréquentés et ne marchent que la nuit. À Madrid, on va les voir la veille de la course, parqués dans un pré qu'on appelle d'Avoyo. Cette promenade n'est pas sans quelque danger. Les amateurs, les dilettanti, qui portent en Espagne le nom d'aficionados, observent les gladiateurs connus, passionnent pour tel ou tel animal et tirent des augures favorables ou défavorables pour le lendemain. Les défauts et les qualités des taureaux sont analysés avec une sagacité merveilleuse. La nuit même, qui précède la course, on les enferme dans des loges formées de poutres qui s'ouvrent et se ferment avec des portes assez semblables à des vannes de moulins. Ils ne sortent de là que pour s'élancer dans l'arène. À travers les interstices des poutres, on harcèle de piqûres ceux d'entre eux qui paraissent d'humeur pacifique, et l'on ne dirige rien pour leur aigrir le caractère. On leur fait des frictions d'acide nitrique qui les exaspèrent au plus haut degré. Chaque taureau porte au cou, piqué dans le cuir par une aiguillette, une touffe de ruban appelée divisa et dont la couleur sert à faire reconnaître le pâturage et l'éleveur auquel il appartient. La couleur de divisa est indiquée sur l'affiche des courses avec les noms des provinces et des propriétaires, à peu près comme sur les programmes de courses. De chevaux se trouvent indiquées les nuances des casaques que portent les jockeys. Tous les taureaux qui paraissent sur la place dans les localités d'importance secondaire ne sont pas inévitablement mis à mort. Alors l'affiche mentionne cette particularité dans les termes suivants. C'est-à-dire Alan Seistoros, si Andonos de Norsiver. On combattra 6 taureaux, dont 2 à mort. Mais à Madrid, le carnage est complet, et nul taureau ne sort vivant de l'arène. Le nombre des victimes est ordinairement de 8, qui éventrent chacune 2 ou 3 chevaux. D'entre eux, avant d'être livrés au fer de l'Espada, cela forme une media corrida, une demi-course. La corrida entière, comme elle se pratiquait anciennement et encore sous Ferdinand VII, aficionado enragé, avait 2 actes et consommait 16 taureaux. Le premier acte se jouait le matin, le second à la tarde et sur le tard, c'est-à-dire vers les 5 heures du soir. Le second acte est le seul que l'on exécute maintenant devant un immense concours de monde dans le cirque que l'on trouve à la gauche de la belle porte d'Atala en sortant de la ville. Malgré les récits plus ou moins circonstanciés des voyageurs, il est encore peu de personnes qui se figurent bien nettement la disposition d'une plaza et la manière dont les choses s'y passent. Il nous convient de donner une idée correcte, complète, de ce spectacle étrange, intéressant au suprême degré, et qui rend bien fade, pour ceux qui ont eu comme nous le bonheur d'y assister, toute espèce de représentation scénique. Goya, l'admirable auteur des Caprices, était un aficionado exalté. Il passait sa vie parmi les toreros et ne manquait pas une course. Il a rendu, sous le titre de Tauromaquia, dans une suite d'eau forte mêlée d'aquatinta, avec cette fougue, cette fantaisie et ce caractère profondément espagnol qui lui sont propres, différentes scènes de course depuis les morts jusqu'à son temps, depuis Gazoul, le Cid et Charles Quint, jusqu'à l'étudiant de Falsès à Martin Shaw et à l'Américain. C'est à ce recueil qu'on ne trouve que fort difficilement en France et qui n'existe pas à la Bibliothèque royale que l'on pourra emprunter des illustrations. Il serait impossible d'en avoir de plus local et de plus fidèle. L'arène est fort vaste. En général, ce drame a besoin de place pour se dérouler et les petites dimensions d'une place le rendent plus dangereux. Celle de Cadiz, une des moins grandes d'Espagne, est redoutée des toreros les plus intrépides. Si les taureaux sont légers, ou, comme on dit en argot, tauromaquistes, beaucoup de jambes, des de muchas piernas, et il faut se tenir tout près des barrières, car on serait facilement atteint. Dans les vastes places, les toreros c'est bien mis hors de distance, car le taureau ne court que par l'impulsion du premier élan et il se fatigue bientôt. Les places de Madrid, de Séville, de Jerez, de Malaga, de Valence que nous avons vues peuvent contenir 10 à 12 000 personnes, ce qui fait comprendre que doit être la grandeur de la reine. Autour de l'arène règne une barrière en planches de 6 à 7 pieds de haut environ et qui s'appelle les tabias. Et du côté de la place, les tablas sont garnis d'un rebord ou cordon de charpente en saillie qui donne au torero pour suivre la facilité de poser le pied pour franchir plus lestement la barrière. Les tablas sont éloignés de 4 ou 5 pieds du premier gradin de l'amphithéâtre, de manière à former un couloir par où circulent les gens de service. Les places les plus recherchées sont celles du premier gradin, bien qu'elles soient les plus dangereuses, car le taureau franchit quelquefois la première enceinte. On les appelle « archretos de barrera ». C'est là que se mettent les aficionados, comme les amateurs de ballet aux salles d'orchestre, les jours où dansent Taglioni, Elisa ou Garlotta. Les loges, nommées Tertullias ou Paulercos se trouvent en haut, sur le bord du vaste entonnoir formé par le cirque. Quatre portes sont percées symétriquement dans la circonférence de l'arène. La première, qui se trouve en face de la loge de l'Ayuntamiento, est le toril. C'est par là que les taureaux entrent dans la place. La seconde, en face, est le matadero, l'endroit où l'on entraîne les bêtes mortes, où l'on écorche les taureaux, etc. La troisième contient les écuries et le chenil. Et la quatrième, qui fait face à celle-là, donne sur le foyer des toreros, c'est par là qu'ils entrent et sortent, c'est là qu'ils s'habillent et se retirent s'ils sont blessés ou contusionnés. Et bien maintenant que nous vous avons donné une idée du terrain, nous allons vous décrire les acteurs. Tous ceux qui s'adonnent dans la tauromaquia sont compris sous le nom générique de toreros ou diestros. Il est très rare que l'on se serve du mot « toréador ». Nous n'avons jamais entendu en Espagne quelqu'un se servir du mot « toréador » ni celui de « matador ». Les toreros sont divisés en plusieurs catégories qui chacune ont une mission spéciale à remplir. Le rôle de chaque acteur est très nettement arrêté dans cette tragédie. Le picador est celui qui subit la première attaque du taureau. Il est posté à quelques pas de la porte du toril. Les qualités nécessaires pour être bon picador sont assez nombreuses. La première, c'est d'être excellent écuyer. La plupart du temps, ils ont affaire à des chevaux vicieux, sans moyens, ruinés ou mal dressés, car la Plaza de Toros et pour les rosses espagnoles, ce que Beaufaucon est pour les rosses parisiennes. Comme très souvent, le picador est obligé de fournir sa carrière avec un cheval éventré, et plus qu'à moitié mort. Il faut qu'il excelle dans l'art de soutenir et d'éperonner sa monture. Il faut en outre qu'il soit d'une constitution athlétique et d'un certain poids, pour résister à l'assaut de l'animal furieux. Le picador est exposé à de fréquentes chutes. Son cheval est souvent renversé les quatre fers en l'air. Le talent est de tomber sous le corps du cheval, qui sert de bouclier et reçoit les coups de corne, destinés aux cavaliers. L'arme du picador, ainsi que son nom l'indique, est une lance de 6 à 7 pieds de long, garni d'un fer de 2 ou 3 pouces, qui peut piquer et irriter l'animal, mais non lui causer la mort. Pour que la hampe de cette lance lui glisse pas entre sa main, le picador porte au pouce un doigt de peau. Avec cette lance, il doit frapper le taureau à l'épaule gauche et non ailleurs. Et la précision de certains picadors est telle qu'ils mettent plusieurs fois dans le même trou. Un coup porté ailleurs déshonorerait le picador et serait regardé comme le plus lâche assassinat. Le picador, aussitôt que, sur le signe de l'alcade, le garçon de combat a ouvert les portes du toril, s'affermit sur les arçons, abaisse sa lance et attend le choc immobile sur son cheval, dont on a eu soin de bander les yeux. S'il a le bras vigoureux et l'assiette ferme, le taureau passe après l'avoir posé sur la lance et court, emportant l'épaule, une blessure qui ne tarda pas à rayer sa peau noire de filet pourpre. Vers le second picador posté et le long des tables, à quelque distance du premier. Souvent, le taureau, s'il est ce qu'on appelle un taureau clair, claro, fonce sur le picador sans tenir compte des piqûres des varias et le foule à grands coups de corne, le ventre ou le poitrail du cheval. Cette position est assez critique, car ainsi à travailler, le pauvre cheval ne peut manquer de s'abattre et de tomber sur le flanc. Le picador s'accroche alors aux tablas et se réfugie dans le couloir, ou bien il se couvre avec le corps de sa monture en attendant que les cloches viennent le délivrer, ce qu'ils font en agitant devant le mufle du taureau des capes de couleur bossa lente dont le plus stupide et farouche animal se met à poursuivre les plis voltigeants et trompeurs, abandonnant pour cette ombre vaine une vengeance assurée qu'un coup de corne de plus aurait accompli. Le costume du picador mérite d'être décrit. Il consiste dans de grands pantalons de peau de buffle, dont les jambes, surtout la droite, qui est la plus exposée au choc, sont matelassées et garnies de tôle, et dans une veste courte de velours rouge, orange ou bleu, enjolivée de broderies, de boutons, d'aiguillettes, d'ornements de toutes sortes, aux coudes, aux parements, aux épaules, et jusque dans le milieu du dos, un gilet également brodé, une large ceinture de soie, un chapeau gris à large bord tout orné de rubans et assez semblable à celui de nos forts de la halle, complète le rajustement. La selle est haute par avant, par devant et par derrière aussi. Les étriers de bois ont la forme des étriers turcs et présente au fond un point d'appui large et solide. Il faut vraiment que les picadors soient de fer pour résister à des secousses si violentes, à des chutes si rudes. Il est vrai que le sol de l'arène est préparé comme celui du cirque olympique, ce qui diminue le danger. Les picadors les plus nommés aujourd'hui sont Sevilla, Fabre Rodriguez, Juan de Dios Dominguez, Tanquinevito, Antonia Sanchez, José Trigo, Joaquim Colte et Francesco Brioches de Puerto Real, mais Sevilla surtout est sans rival. Le capeador ou chulo vient immédiatement après le picador. Le capcador doit être jeune, svelte et bon coureur. Il n'a pour arme qu'un manteau flashball de taffetas ou de percales gommées de couleurs brillantes, rose vif, bleu clair, jaune paille, vert pomme, qui puisse attirer l'attention de la bête farouche. Le chulo sert à distraire le taureau, à le faire changer de place, à lui donner le change quand un picador désarçonné se trouve en danger de recevoir quelques coups de corne. Cela s'appelle en style technique capear ou sacar, décapa. On dit aussi l'astilleur. Aucun de ces mots du dictionnaire tolomaquiste n'a d'équivalent ni en français dans aucune langue. Ils appartiennent exclusivement à l'Espagne, comme les choses qu'ils représentent. Les suertes des capas les plus usitées sont la Veronica, la Navarra et Cher, les Ricord et les Galeos. Le verrou s'emploie fréquemment. Pour les exécuter, le chulo se place droit devant le taureau, l'appelle sur sa juridiction, c'est-à-dire le fait sortir de son terrain, tend les bras et lui secoue sa cape devant les yeux, et gagne au pied, dans la Navarra, l'homme, après avoir agité son manteau sur le mufle de l'animal, fait un saut de côté pour le laisser passer. Ces exercices brillants et gracieux n'offrent que fort peu de danger. Si le diestro est trop vivement poursuivi, il n'a qu'à jeter sa cape derrière lui. La bête furieuse s'en empare, la déchire, la foule au pied, la lacère et de coups de corne, lui jette en l'air, l'embarrasse dans ses plis, et se fait des turbans que les marchandes de mode n'ont pas prévus. Ses suertes l'excitent et le fatiguent en même temps. Au lieu de courir jusque sur le terrain du diestro, le taureau commence à ne plus poursuivre la cape que pendant quelques pas, au bout desquels il revient à sa Lucrezia. Il faut donc quelque chose de plus vif, de plus aigu, pour raviver sa colère qui s'éteint. Le moment est arrivé de poser les bandrillas. Quand le quadrille, on nomme ainsi la troupe que tout matador amène avec lui, n'est pas nombreux. Les caparados sont l'office de banderillos, mais assez souvent les suertes de banderillas sont exécutées par des acteurs spéciaux. Elles exigent beaucoup d'adresse, de sang-froid et de légèreté, et pourraient devenir aisément dangereuses. Les banderillas consistent en déclics de 3 pieds de long à peu près, formés d'une pointe à crochet pour s'implanter dans le cuir, et garnis de découpures de papier qui bruissent et papillotent. Le banderillo va au-devant du taureau, dont il éveille l'attention, en choquant l'une contre l'autre ses libelles barbelées. Le taureau sort de son terrain, passe sur celui de Banderillo, baisse la tête, s'humilie en termes techniques pour lui donner la cogita, et c'est le moment de poser les dards, ce qui s'exécute en exécutant dans le bras au-dessus des cornes, les pointes des flèches tournées en bas et un peu séparées de manière à ce qu'il en entre une dans chaque épaule. Si l'homme a bien été manégé par les espadrilles, c'est-à-dire si le manteau lui a été jeté très bas de façon à l'accoutumer à bien baisser la tête, les suertes tassent de là de se fuir avec grâce et sécurité. Elles sont plus difficiles et plus dangereuses quand le taureau tient les cornes hautes. Une appréciation très juste des dispositions de la bête, au degré de colère et de fatigue où elle est arrivée, de sa légèreté, du côté par lequel le coup de corne lui est plus facile, ce qui se connaît par le mouvement plus rapide de l'oreille est tout à fait indispensable au banderillero. Quand le taureau a sur les épaules 3 ou 4 paires de banderillas, il est suffisamment préparé à la mort. L'espada, qui jusqu'alors était spectateur impassible en apparence des divers événements de la course, son épée à la main, sa muleta sur le dos, espèce de voile rouge fixé sur un bâton, mais qui n'a pas cessé d'observer les qualités, les défauts, les habitudes du monstre écumant avec lequel il va entrer en lutte, s'avance vers le dueur de l'ayuntamiento et demande la permission de donner l'estocade. Cette permission accordée, l'espada jette sa montera, sorte de coiffure en l'air, pour montrer qu'il joue son va-tout et se dispose à sa périlleuse besogne. Le torero doit être doué par la nature de certaines qualités particulières, s'il n'est pas très rare de les rencontrer réunies dans le même individu, il est du moins peu fréquent qu'elles se déploient dans tout leur éclat. Les qualités indispensables au torero sont la valeur, la légèreté et une parfaite connaissance de sa profession. Les deux premières naissent avec l'homme, la troisième s'acquiert. La valeur est nécessaire, si nécessaire, à celui qui veut devenir torero, que sans elle, il ne pourra jamais arriver à l'être. Mais il faut que cette valeur n'aille pas jusqu'à la témérité et ne recule pas jusqu'à la peur. L'une et l'autre extrémité peuvent attirer beaucoup de malheur et peut-être la mort. Celui qui sera téméraire et qui voudra exécuter un coup sans que le taureau soit dans la situation voulue, pour montrer ainsi son courage et son habileté, loin d'arriver à son but, fait preuve de manque de jugement et de peu de connaissances. Par le seul fait du hasard, il sortira sain et sauf d'une rencontre qui pourrait lui être fatale. Celui qui, au contraire, laisse passer par crainte le moment opportun d'exécuter la suerte, on ne comprend pas bien sa position ou ne voit pas arriver le taureau, conséquent de la peur qu'il en a, sera toujours en danger d'être atteint. Ses rencontres seront très périlleuses, le jugement lui défaillant pour éviter le taureau, et ce sera un miracle s'il ne finit pas ses jours sur les cornes de cette bête féroce. Il est nécessaire d'éviter ces deux extrêmes avec soin. La vraie valeur est celle qui vous maintient devant le taureau dans la même sérénité que s'il ne s'enfuit pas là et vous laisse passer de sang-froid pour décider sur le champ ce qu'il faut faire avec la bête. Celui qui possède cette valeur a la plus importante qualité du torero. Et il peut être assuré qu'en y réunissant les deux autres, il jouera les taureaux sans le plus petit risque. La légèreté est une autre qualité, tout à fait indispensable à celui qui veut s'adonner à la tauromachie. Mais il ne faut pas croire que la légèreté du taureau consiste à se mouvoir perpétuellement d'ici là sans tenir un instant en place. C'est un défaut très grand et auquel on reconnaît un mauvais torero. La légèreté dont nous parlons consiste à courir droit avec beaucoup de vitesse, à se détourner, à se garer, à changer de direction avec une grande célérité. Il est aussi nécessaire au torero de bien sauter. Mais où sa légèreté s'apprécie le mieux, c'est dans les mouvements qu'il est nécessaire d'exécuter dans les un broc de corto pour se préserver des coups de corne. Un broc se dit de la position où se trouve le diestro vis-à-vis du taureau et dans laquelle il recevrait un coup de corne s'il en changeait. Celui qui possède cette agilité a beaucoup de chance pour que le taureau ne l'attrape jamais. Il est indispensable d'en être doué pour exécuter avec sécurité les récoltes, les galéos, etc. Il y a une remarque à faire relativement à cette dernière espèce de légèreté. C'est que lorsque celui qui la possède bien est arrivé, à cause de l'âge, à perdre les pieds, il la conserve longtemps encore de manière à déployer sur la reine la même supériorité magistrale qu'au temps où il avait toute sa vigueur. Nous en avons des exemples frappants dans les matadors, car nous voyons des hommes qui sont lourds, même pour marcher, parce qu'ils passent la soixantaine et qui tuent un taureau avec une légèreté incroyable, exécutant des mouvements très rapides, des sauts violents et usant de leurs pieds avec la même utilité, la même perfection que lorsqu'ils ne comptaient pas plus de 30 ans. Celui qui, avec les deux qualités susdites, s'adonne à la tauromachie finira par la pratiquer heureusement, à la condition expresse d'y joindre une parfaite connaissance de l'art. Cette connaissance, il est facile de l'acquérir et elle est si nécessaire que sans elle, l'homme qui ira se placer devant les taureaux deviendra leur victime, même quand il aurait les autres qualités. La valeur sans la connaissance ne lui servira qu'à ne pas chanceler en allant se jeter à la tête du taureau, et la légèreté qu'à le faire blesser plus vite. Par conséquent, la connaissance, si la principale qualité du bon torero, elle doit être son guide dans toutes les suertes, la valeur lui servant à ce qu'aucune ne le trouve et la légèreté pour les accomplir avec sécurité et perfection. La nécessité de connaître à fond les règles de l'art est évidente en faisant cette seule réflexion que les taureaux ne laissent pas le temps de consulter les livres ni les traités, et encore moins de méditer. C'est pour cela qu'il ne faut se représenter, même devant la bête la plus franche, que bien instruit de tout ce qu'il est possible de savoir. Alors, d'un seul coup d'œil, le torero comprendra les habitudes naturelles et accidentelles du taureau, sa classe, ses jambes et la manière dont les sittelles doivent être divisées. Il connaîtra le moment opportun de les exécuter et, aidé par la valeur et la légèreté, il les pratiquera avec succès, sérénité et désinvolture. Il ne sera jamais bon torero celui qui ne possède pas à la perfection toutes ses qualités. Sa vie sera continuellement en péril. Il n'exécutera proprement aucune suerte et n'obtiendra pas l'approbation des spectateurs intelligents. Je lui conseille amicalement et avec sincérité de chercher un autre métier, s'il est torero de profession, et s'il est amateur, de ne pas se risquer avec des bêtes de plus de 3 ans, de les choisir d'une nature franche et pour diminuer le danger, de les mettre des boules ou de leur scier la pointe des cornes. Tel est l'avis de Montès, et personne n'en peut nier la justesse. Le costume de l'espada est d'une grande élégance et souvent d'une grande richesse. Culotte courte, veste de satin brodée d'or ou d'argent, ceinture et bas de soie, fins souliers, coquette montrera, rien n'y manque. Tel de ces costumes a coûté 1500 ou 2000 francs. Les armes du matador sont une longue épée à la poignée en croix et la muleta, carré long d'étoffe de couleur rouge ajustée sur un bâton. La muleta lui sert à exciter le taureau, à lui donner le change et surtout à l'humilier, c'est-à-dire à lui faire baisser la tête, position nécessaire pour certaines estocades. Il y a différentes sortes de muerte qui s'exécutent avec quelques variations nécessitées par le caractère et la nature des taureaux. Des plus usitées est celle qu'on nomme « a toro recibido ». Le matador se porte en face de l'animal, l'appelle sur son terrain en faisant des passes avec la muleta, et lorsqu'il fond sur lui, étend entre ses cornes le bras qui tient l'épée. Le taureau s'enferre lui-même et le torero fait un saut de côté qui le met hors d'atteinte. Une estocada de Huesapi, dont on attribue l'invention à Joaquim Rodriguez, exige au contraire que le taureau soit complètement immobile. C'est un des plus beaux coups que l'on puisse voir et lorsqu'il est bien réussi, l'animal tombe aux pieds de l'homme sans avoir perdu une goutte de sang et comme frappé par la foudre. C'est vraiment un spectacle étrange et surprenant de voir l'immobilité de la mort succéder si rapidement à toute cette fureur et à toute cette agitation. Il y a aussi d'autres coups d'un emploi moins fréquent, l'estocada la carrera, a media vuelta di passo, des banderillas, mais qui servent à varier les courses et sont des excellents recours contre les taureaux revêches, poltrons ou malicieux qui ne se présentent pas avec franchise. Il nous serait difficile de donner à nos lecteurs une idée de ces différents coups, les termes techniques de la tauromachie n'ayant pas d'équivalent dans notre langue et chaque mot exigeant une périphrase ou un commentaire. La mort immédiate du taureau n'est pas toujours la conséquence de ces estocades. Il arrive souvent que l'épée, entrant de haut, rencontre les os et rejaillit hors de la blessure. Il faut alors revenir à la charge. Les toreros les plus habiles ne réussissent pas toujours du premier coup. Les estocades produisent immédiatement la mort. Lorsque, pénétrant entre deux vertèbres, la tranche, la belle moelle épinière ou atteint ce que les toreros appellent la herradura, le coup d'une tuile de taureau, même quand l'épée n'est entrée qu'à moitié. On connaît que Pépé a coupé la herradura lorsqu'elle est entrée obliquement un peu basse et dans la poitrine. Le taureau reste encore quelques minutes sur pied, mais sans force et tombe bientôt mort, sans répandre de sang, ni par sa blessure, ni par le mufle. Le torero, qui vient d'exécuter ce coup, laisse le taureau tout seul par manière de gentillesse et salue les spectateurs incertains qui attendent la chute de l'animal. Quelquefois, lorsque la blessure n'est pas assez profonde pour causer la mort, il faut que le torero ou un chulo agite devant la tête de l'animal la capote ou la muleta pour l'étourdir et le faire tomber. Alors s'avance le chachero armé de sa puntilla, dont il frappe le taureau derrière la racine des cornes de façon à traverser la cervelle. Cette opération s'appelle cachetar. Certains coups, nommés gauntlets, font vomir beaucoup de sang à l'animal et sont, à cause de cela, peu estimés. Parfois, les taureaux sont si lâches qu'il est impossible de les déterminer à faire un pas, ce qui nécessite l'emploi de la mediatina, espèce de croissant à l'aide duquel on leur coupe les jarrets derrière. Rien n'est plus hideux et l'on ne recourt à ce moyen qu'à la dernière extrémité. Les anciens maîtres, José Carnido, Locerillo, José Delgado ou Romero, renchérissaient encore sur les dangers naturels que représentent les courses. Romero, par exemple, donnait l'estocade de mort, les fers aux pieds, assis sur une chaise, n'ayant pour muleta que son chapeau. Et Americano attaquait la bête, monté sur un autre taureau, sellé et bridé. La licence de Facet se présentait devant l'animal, embarrassé, bras bossé dans son manteau, c'est-à-dire n'ayant pas les bras libres. Ces coquetteries de témérité sont un peu tombées en désuétude, bien que Montez, dans ses jours de bonne humeur, se permette avec le taureau une infinité de pasquinades qui seraient dangereuses pour tout autre que lui. Lorsque le calcherero a terminé son office, un attelage de mules pompeusement harnachées s'élance dans la place et emporte les victimes avec une rapidité éblouissante. Les trompettes sonnent, les portes du toril se rouvrent et un autre acteur à quatre pieds vient jouer son rôle sur ce théâtre où nul ne reparaît deux fois.